Bonjour à tous. Oui, vous avez reconnu le thème d'Au fil du temps. Ici Chantal Doré, au micro de la toute première émission de la saison 2 d'Au fil du temps. Oui, nous avons bouclé notre première année. Nous avons fait nos saisons. Je serai de nouveau entourée par notre dynamique équipe, entourée de Catherine Bourderon à la recherche, Maurice Bolduc en régie et Louis Garon comme chef d'antenne, avec bien sûr de nombreux invités et chroniqueurs. Pas de pénurie de main-d'œuvre pour l'équipe d'Au fil du temps, heureusement. Mais ce n'est pas le cas pour plusieurs entreprises et commerces depuis qu'ils sont réouverts suite au confinement. Vous êtes sans doute vous-même cet été buté à une porte close d'un café ou d'un restaurant faute de personnel. Bon, dans mon nouveau quartier, entre autres, alors que ma cafetière n'était pas encore déballée, il m'a fallu 3 endroits différents avant de trouver un café ouvert. Et ce scénario semble se répéter un peu partout à travers le Québec. Bien sûr, ce serait facile d'en attribuer la cause aux subventions salariales qu'ont reçues les jeunes travailleurs comme la PCU. Mais ce n'est qu'un des éléments auxquels font face de nouveaux employeurs. Je me rappelle entre autres d'avoir travaillé à titre de journaliste sur un dossier il y a déjà 20 ans qui s'appelait « Pénurie de main-d'œuvre, crie-t-on au loup ». Alors notre premier invité, lui, il crie au loup, mais avec raison, depuis plus de 20 ans. Mais ça fait 20 ans qu'il sensibilise les employeurs et les institutions sur la nécessité d'être plus attractif, d'inciter à adapter les formations parce qu'il prévoyait, en fait, suite aux statistiques, ce grand virage et pénurie de main-d'œuvre que nous vivons en ce moment. Donc, Pierre Bernier, président du groupe Ambition, il a créé le concept employeur remarquable. Il sera avec nous pour démystifier la pénurie de main-d'œuvre actuelle et surtout nous prévenir de ce qui s'en vient d'ici 2036. Donc, cette fois-ci, on pourra mieux s'y préparer et nous creuserons également ce sujet de la pénurie de la main-d'œuvre, mais du point de vue d'un conseiller d'orientation. Est-ce que certains secteurs sont boudés maintenant par les jeunes suite aux opportunités qui existent au niveau d'Internet? Donc, est-ce que ça s'explique notamment par la naissance de nouveaux métiers rendus possibles grâce à Internet? Par exemple, ma belle-fille revend des vêtements sur Internet. Mon neveu, lui, s'intéresse à la crypto-monnaie. Alors, on entend aussi que certaines personnes des nouvelles générations n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Mais s'ils avaient trouvé de nouvelles façons de faire les choses. Moi qui est issue de la génération X où trouver un emploi, c'était une réelle course à obstacles, je suis fascinée par toutes ces mouvances et transformations. Je me réjouis donc d'avoir 2 spécialistes pour creuser avec nous le phénomène et pour lancer cette première émission d'Au fil du temps, année 2, je nous offre une chanson qui semble parler de démographie. Avec les 700 millions de Chinois, lorsque il l'a chanté en 1966 et la population de la Chine a pratiquement doublé depuis plus d'1,4 milliard de Chinois. Ce qui ne change pas de cette chanson, toutefois, c'est notre rapport au monde. C'est une satire de la petite vie bourgeoise alors que le monde vit de grands problèmes de tout ça et ça demeure intemporel. Bref, causons démographie et de notre place dans le monde. Et on commence avec « Et moi, et moi, et moi ».
« 700 millions de Chinois » Et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 ou 400 millions de Noirs, et moi. Qui vais au brunissoir, au sauna pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. 300 millions de Soviétiques, et moi. À avec mes manies et mes tics. Dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi, qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 900 millions de crèvent la faim, et moi, et moi, et moi, avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains, et moi, et moi, et moi, je suis tout nu dans mon bain avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens, et moi, et moi, et moi, le dimanche à la chasse au lapin, avec mon fusil, je suis le roi. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 500 milliards de petits martiens, et moi, et moi, et moi, comme un con de parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. J'y pense et puis j'oublie.
Et moi, et moi, et moi, de Jacques Dutronc, une chanson dans laquelle on balance plusieurs chiffres démographiques, mais sur laquelle on philosophe sur la vie. Et c'est ce que je ferai avec notre premier invité, Pierre Bernier. Il est président du groupe Ambition. Il a créé le concept employeur remarquable qui aide les employeurs à mieux rayonner dans le marché de l'emploi, dans une ère de rareté de la main-d'œuvre. En fait, ça fait plus de deux décennies que Pierre se spécialise dans la vulgarisation des impacts et des conséquences de la transformation démographique et du vieillissement de la population. J'ai connu Pierre à ce moment-là, à peu près, il y a presque 20 ans, au moment où j'avais lancé ma conférence Entreprise Tribu, qui allait un peu dans le même esprit. Alors, je vais tutoyer notre invité et j'ai très, très hâte de l'entendre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Chantal. Ça va bien?
Ça va très bien. Tu étais un précurseur et un visionnaire hein, quand tu as lancé ce programme-là.
Ben effectivement, c'est que avec la démographie, c'est assez stable. Ça veut dire qu'on un coup qu'on projette la population dans le temps, on est capable de voir un peu comment va évoluer la démographie, non seulement au Québec, mais dans chacune des régions administratives. Donc, effectivement, c'est assez mathématique. Et ça, ben, on est capable de voir tous les impacts, les conséquences partout là, sur la société.
Mais on va essayer de creuser. Qu'est-ce qui fait qu'on a beau les savoir, ces chiffres-là, mais qu'on n'agit pas nécessairement? Est-ce qu'il y a une sorte de pensée magique qui fait que ça fait pas tant que ça fait pas assez mal, c'est comme là, on le voit carrément, là. On voit, on se bute sur des portes closes, on voit des entreprises là, qui doivent fermer faute de personnel, des cadres qui mettent l'épaule à la roue. Donc, qu'est-ce qui explique qu'on ne bouge pas avant?
Ben, je pense que, un peu comme tu l'as mentionné, quand ça fait pas mal, on pense qu'il y a une formule magique qui va s'installer et que ça va revenir comme avant. Mais c'est certain qu'avant, on a toujours pensé qu'on était dans l'abondance. Donc, l'abondance au niveau naturel, matière première, au niveau financier, puis même au niveau humain, on pensait que c'était illimité le nombre d'individus disponibles. Mais là, on rentre maintenant dans l'ère de la rareté. Et autant la rareté humaine, mais la rareté également aussi financière, et également aussi des matières premières. Donc, on est dans une zone de transition entre qu'est-ce qu'on connaissait avant et vers quoi qu'on se dirige. Et cette zone de transition-là, il y a certaines personnes qui prennent à cœur puis qui s'informent vraiment pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Mais il y en a d'autres qui restent comme des analphabètes économiques que j'appelle là. Donc, ça ne les intéresse pas du tout. Pourtant, la démographie, là, c'est un défi qui appartient à toute la société. Si on s'attend toujours, on s'attend des autres constamment, sans vraiment être d'une valeur ajoutée, ben c'est certain que ça va créer beaucoup de difficultés. Fait que des bris de services dans lesquels que nous sommes actuellement, oui. Où ne fait que commencer. C'est rien comparativement à ce qui s'en vient.
Ah oui.
Donc, c'est certain qu'avec le vieillissement de population, le domaine de la santé va être fortement sous tension, sous pression. Et plus ça va être sous pression, moins il va y avoir de gens qui vont s'intéresser au métier associé à la santé. Donc, on arrive dans une genre de spirale qui va faire en sorte que les gens vont travailler très, très fort, mais de notre côté, ils vont s'épuiser, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de pression et de stress. Puis là, ben, tout ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer le nombre de jeunes qui vont vouloir s'intéresser au métier associé à la santé. Fait qu'on rentre dans un air vraiment là, assez intéressant, mais aussi névralgique pour le développement du Québec.
Oui, mais ne soyons pas des analphabètes économiques nous-mêmes. J'aime bien ton expression. On va d'abord positionner les chiffres. Oui. Dans l'étude que tu as préparée là, avec les chiffres de l'Institut de la statistique, on parle de l'indice de remplacement. Donc, peut-être nous expliquer ce que c'est et comment là, ça nous affecte de plein fouet et que ça va empirer prochainement.
Donc, l'indice de remplacement, c'est ça qui nous indique le nombre de 20-29 ans disponibles pour remplacer les 55-64 susceptibles de prendre une retraite. Donc, c'est un indice là, qui permet de comparer le nombre de 20-29 ans versus le 55-64 qui sont susceptibles de quitter. Et actuellement, on a un indice de 82,5 pour avoir un remplacement naturel de la population. Ça prend 100. Et actuellement, on est en déficit. On est à 82,5. Donc, il y a un déficit de 18 personnes. Ça veut dire qu'il y a 82 personnes de disponibles pour remplacer 100 personnes qui vont prendre une retraite. Maintenant, on a actuellement 2020, 2021, 2022, on arrive dans le plus bas de la courbe. Mm. Donc, à partir de 2022-2023, ça va graduellement augmenter, mais il va y avoir quand même plusieurs régions administratives et plusieurs MRC où ça va être impossible d'avoir un remplacement complet de la main-d'œuvre. Donc, il va falloir peut-être qu'on décide quel type d'emploi qu'on veut abandonner au détriment des emplois qui vont être nécessaires pour être capable d'offrir un service à la population.
Quand tu parles un peu de régions particulièrement touchées, on a vu quand même que l'impact de la COVID a provoqué des petits exodes en région. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas là un certain rebalancement qui va se faire?
Effectivement. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes qui décident de quitter les grandes villes pour s'en aller en région. Mais d'un autre côté, si ces gens-là font du télétravail, ça veut dire qu'ils n'amènent pas du personnel supplémentaire dans la communauté pour combler les emplois dans la communauté. Tout ce que ça fait gonfler la population dans la communauté qui a des besoins de services, mais ça ne crée pas nécessairement de nouveaux travailleurs dans la communauté parce qu'eux autres font du télétravail. Oui. Donc, tout ce que ça va faire, ça va accentuer davantage les problématiques dans les communautés.
Oui, c'est important de faire cette nuance-là. Et j'ai envie de savoir un peu, d'après toi, quelle partie de la situation qu'on vit, là, parce qu'on entend beaucoup, bon, c'est la faute aux jeunes générations, ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage, puis là, ils ont eu la PCU, donc ils ne viennent pas travailler. Mais quelle part est attribuable à la PCU et à ce qu'on pensait déjà là, avec les études en termes statistiques?
Mais en ce qui concerne la jeune génération ou les gens qui sont sur le PCU, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Ça fait, il peut en avoir peut-être, je ne sais pas, 150, 160 000 peut-être, là, je ne sais pas combien, là. Mais ça fait, c'est pas ça qui va faire un impact, là, qui va faire un virage complet là, pour être capable de combler des emplois disponibles. C'est sûr qu'on a 180 000 emplois de peu près disponibles au Québec, là, mais ça ne comblera pas nécessairement tous les emplois. Et c'est surtout le type d'emploi, je pense, qui est problématique. Tous les emplois physiques qu'on retrouve, que ce soit dans le domaine agroalimentaire ou encore dans le domaine de fabrication, la jeune génération ne s'intéresse plus ou moins aux emplois physiques. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de types d'emplois qui ne trouveront pas de preneurs, tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attrait de la part chez les gens. D'un autre côté, c'est de là qu'il faut penser à l'automatisation, c'est là qu'il faut penser à augmenter la productivité. Mais automatiquement, lorsqu'on augmente l'automatisation ou la productivité, bien, ça nécessite de nouvelles compétences de la part des travailleurs. Donc, si les travailleurs n'ont pas des compétences requises pour être capables de gérer les équipements ou encore maîtriser parfaitement, mettons, la technologie qu'il y a avec, bien, ça cause des difficultés. Donc, on a un défi également aussi de décrochage scolaire. Mm-hmm. Donc, on sait que le futur, ça va être de plus en plus complexe pour vivre dans le futur. Ça va nécessiter beaucoup de flexibilité et d'agilité. Et je pense que si les gens ne terminent pas leurs études, bien, ils n'auront pas nécessairement les qualités requises pour être capables de faire face à cette complexité de la vie qui va être de plus en plus importante dans les prochaines années.
Donc, c'est très complexe quand j'évoquais un casse-tête, parce que là, on parle aussi de l'éducation, d'être en mesure de préparer les gens pour ces défis.
Oui. Oui, effectivement. Puis actuellement, avec spécialement au niveau des garçons, là, je pense qu'il y a peut-être à 40% des gens, des jeunes qui décrochent.
Ouais.
Non seulement ils se pénalisent en premier, mais ils pénalisent également aussi les entreprises qui ne pourront pas compétitionner sur le marché international ou encore être capables d'utiliser la technologie à bon escient là, pour être capable de produire. Qu'est-ce qui est vraiment très marquant aussi, c'est que le vieillissement de population, c'est qu'on est rendu à on est rendu actuellement à 2,32 personnes de 20-24 ans disponibles par personne de 65 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 2,3 personnes de 20-64 ans par une personne de 65 ans. Et ça va diminuer à 2,1 autour des années 2036. Ça veut dire qu'il va falloir que chaque Québécois augmente sa productivité, double sa productivité, excuse-moi, double sa productivité pour être capable de supporter les services à la population.
Mais ça, on parle vraiment de base. Là, j'évoquais en entrée d'émission là, les cafés, les restaurants, même les cafés, sans nommer nécessairement, mais on essaie de se prendre un café, on se bute à plusieurs portes closes. Donc là, on parle d'automatisation, mais ça va être quoi là? Ça va être des robots qui vont nous offrir notre café? Ça va être dans d'autres lieux?
Effectivement, dans la restauration, il y a quand même beaucoup de robotisation qui s'installe, notamment pour faire des pizzas automatisées.
Ouais.
Mais d'un autre côté, le manque de personnel va faire en sorte que les gens vont commander à partir de leur téléphone. Ils vont aller chercher leur assiette en arrière. Donc, ça veut dire que comme il n'y aura pas de serveur, les gens vont aller chercher c'est comme si c'était dans une cafétéria, là. Donc, les gens vont aller chercher leur assiette là, à la passe ou encore dans un endroit où est-ce que les gens peuvent aller chercher la cuisine. Donc, on allait dans une transformation du travail, une transformation importante également aussi de la relation client et également aussi fournisseur. Et ça, sachant aussi qu'on est très gâté, puis on est de plus en plus demandant ce qui concerne la qualité de service. Mais c'est certain que ça va être tout un défi. Le manque de main-d'œuvre va faire en sorte que la qualité du service va diminuer. Il va falloir qu'on puisse être capable de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on veut avoir comme économie, mais aussi qu'est-ce qu'on veut avoir comme emploi de service à la population. Au lieu d'avoir 15 restaurants, on va en avoir 10. Au lieu d'avoir 20 garages, on va en avoir 9. Au lieu d'avoir 20 ou 30 personnes emploi à feu, il va en avoir 5. Donc, on rentre dans un ère de fusion, d'acquisition, de shrinkage, qu'on appelle de diminution. Et ça, c'est en train de se réaliser. Là. Encore plus dans les prochaines années.
C'est peut-être là qu'on va aller chercher justement quelques gains de productivité. Pierre, on va aller en musique ensuite, j'aimerais ça justement qu'on parle, on va recevoir en deuxième partie un conseiller d'orientation, Mathieu Guénette, qui va nous parler des nouveaux métiers rendus possibles. Donc, je serais curieuse de t'entendre aussi sur ce sujet. Alors, écoutons une pièce qui s'appelle « La futilité » d'Éric Baudry.
Je suis une marionnette, je critique, je rouspète. Je ne suis qu'un pantin, faut toujours qu'on me tienne la main. Je suis une marionnette, pacifique mais redneck. Je ne suis qu'un pantin, je fais pareil comme mon voisin. Et de longs discours et de grands détours qui font briller la futilité. Après le discours, à bout de détour, on se rendra jamais dans 100 ans. Je tient par les fils de la bonne conscience. Je reste immobile, sauf pour prendre des vacances. Je tiens par les fils du libre-échange. Je reste immobile, je veux surtout pas qu'on me dérange. Et de longs discours et de grands détours qui entraînent à la futilité. Après les discours et un bout de détour, on se rendra jamais dans 100 ans. Chemin, les erreurs qui se répètent et je n'y change rien. Je vois dans mes lunettes la vie qui s'éteint. Les erreurs se répètent et j'ai l'impression de servir à rien. Et de longs discours et de grands détours qui font traîner la futilité. Après les discours à bout de jamais dans 100 ans.
La futilité d'Éric Baudry, une toute nouvelle chanson sortie le mois dernier et qui se termine par « On se rendra jamais dans 100 ans ». Alors Pierre, comment on fait pour se rendre dans 100 ans avec un bon rapport au niveau de la main-d'œuvre?
Ben, on parle de la santé globale de la population ou des gens ou quoi, là, Chantal?
Ben, en fait, c'est parce que je sais que ton étude portait un petit peu là, des prévisions jusqu'en 2036. Là, on a parlé d'automatisation, on a parlé de certains métiers. Il y a peut-être toute la question de l'immigration aussi qui va venir être aidante.
Oui. Ben, écoute, c'est certain que l'évolution de la société nécessite une combinaison de plusieurs choses. Donc, ça nécessite de faire des enfants. Puis, sinon, on est à 1,6 enfants par femme au Québec. Donc, on n'est pas assez. Donc, on n'a pas assez de repopulation. Donc, l'immigration est une autre source définitivement d'un atout. Actuellement, on se situe entre 40 et 50 000 par année au Québec maintenant. Il faudrait beaucoup, beaucoup plus pour être capable d'avoir un certain équilibre. Et l'autre point, bien, c'est tout ce qui touche l'automatisation. Puis, ou de la technologie ou la productivité, vient à partir d'une industrie qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc, actuellement, on rentre dans un ère où est-ce que la technologie va dicter le système éducationnel, mais il va dicter également aussi le système des différents types de métiers qui vont exister dans les prochaines années. Et donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de nouveaux métiers que les jeunes vont avoir droit. Mais surtout, ce qui va être excessivement intéressant, c'est que les jeunes vont être excessivement demandés de la part des employeurs. Donc, les employeurs vont être quasiment à genoux devant les jeunes, bien travailler chez nous, mais du moment que ces gens-là ont la bonne éducation et la bonne formation académique. Donc, parce que la technologie, comme j'ai mentionné, va vraiment dicter le système éducationnel. C'est ça qui va dicter également aussi qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années dans les organisations. Donc, on rentre dans un air vraiment là, tout à fait là, excitant.
Oui.
D'un autre côté, excessivement challengeant ou demandant, qui va défier la manière qu'on va éduquer nos jeunes, la manière qu'on va également aussi proposer les types d'emplois, proposer les types de relations d'affaires aussi entre employeurs-employés. Ça fait que tout ça, là, il y a beaucoup, beaucoup de création de nouveautés qui s'en viennent dans les prochaines années. Puis ça, bien, c'est tout à fait extraordinaire. Puis on est dans un moment charnière.
Absolument. Absolument. Je voyais aussi tout un mouvement par rapport au désintérêt des jeunes jeunes aussi face à ces métiers où ils peuvent justement faire parfois plus en restant de la maison parce que Internet propose des nouveaux métiers et on va en parler tout de suite après. Mais je vois aussi un appel à une bonification des taux horaires pour le salaire minimum et de dire peut-être d'inciter les clients que les entreprises puissent s'afficher comme employeur équitable et qu'à ce moment-là, le client ait envie d'encourager ces entreprises-là qui sont plus équitables.
Oui, bien effectivement. Donc, c'est de nouveaux types de relations qui vont exister d'affaires entre un employé et un employeur. Puis, définitivement, si l'employeur n'est pas compétitif au niveau salarial ou encore de bénéfices ou avantages sociaux, bien, pourquoi faire que les gens s'intéressent à leur métier? Donc, c'est toute une question de mérite. Pourquoi un employeur mériterait d'avoir du personnel? Qu'est-ce qui fait qu'il se démarque des autres? Qu'est-ce qui fait qu'il est attirant pour des candidats de venir travailler pour eux? Fait que, il y a toute une question de positionnement, de faire rayonner sa marque employeur pour être capable vraiment d'attirer des gens de qualité dans son organisation.
Mais je pense que si tu le soulignais avant la pièce musicale, un peu toute la consolidation qui va se faire dans certains marchés et du côté des services, en tout cas, sans avoir une boule de cristal comme toi, mais j'ai l'impression que la différence entre le produit-service de commodité versus le volet expérience va peut-être grandir encore plus. C'est qu'on le sait que ça, c'est une commodité et ça, c'est vraiment une expérience qu'on vit.
Oui, bien l'expérience, c'est peut-être lié au luxe également aussi. Oui. Donc, il va y avoir vraiment des produits de base puis des produits de luxe. Mais maintenant, quel genre de service qu'on va avoir? Puis quel genre de travailleurs qui vont s'intéresser aux deux types de d'entreprises comme tu mentionnes également aussi. Oui, vas-y.
Ben le fait justement, tu parlais de marque employeur, donc pour ceux qui sont moins familiers de pouvoir vendre tout ce qu'on a à offrir, la promesse de notre marque. Peut-être un dernier conseil en terminant pour les entreprises là, pour être plus attractifs.
Ben définitivement, la première chose pour s'occuper de la marque employeur, il faut vraiment se vérifier qu'est-ce que les employés à l'interne pensent. Parce que la marque employeur, c'est une promesse de livraison. C'est-à-dire que chaque entreprise a sa marque commerciale, puis chaque entreprise a sa marque employeur également aussi. Donc, une marque employeur, c'est sa promesse de livraison, sa promesse qu'il fait auprès de son personnel. Donc, la première chose à faire, c'est de valider avec son personnel est-ce que la promesse employeur est vraiment intéressante ou est-ce que les employés apprécient qu'est-ce qui est véhiculé ou qu'est-ce qu'ils sentent que c'est cohérent. Un coup, ça, c'est fait. Après ça, là, on peut penser à l'exporter à l'extérieur. Puis de démontrer comme à des candidats de faire vivre l'expérience employée à travers leur site web, à travers des témoignages, à travers des photos. Parce qu'un candidat va toujours aller visiter le site web d'un futur employeur. Donc, s'il ne voit pas quel genre d'expérience employée qu'il va vivre à l'intérieur de l'organisation, bien, peut-être qu'il sera peut-être plus ou moins intéressé à aller voir puis de cogner à cette porte-là. Donc, il y a vraiment un positionnement de premièrement à l'interne et deuxième point, bien, faire rayonner sa marque, démontrer au monde entier comme quoi que l'entreprise est un employeur de qualité pour attirer le plus de candidats possible.
Merci beaucoup, Pierre, pour ce tour d'horizon et bonne continuation à être le visionnaire que tu es. Merci.
Merci beaucoup, Chantal. À bientôt.
À bientôt. Après la pause, Mathieu Guénette sur les nouveaux métiers.
Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré.
Merci Jeannette, en voilà une qui se réinvente constamment. Nous parlons après la pause des métiers qui se réinventent pour nos jeunes avec un conseiller d'orientation, Mathieu Guénette. Mathieu Guénette qui a participé plusieurs fois au fil du temps et vous pouvez réécouter ses participations sur canalem.vusezvoix.com et également sur nos plateformes de balado diffusion Spotify, Google Podcast et Apple Balado. Avant de recevoir Mathieu, écoutons une chanson bien de circonstances. Travailler de Michel Pagliaro. C'était « Travailler » de Michel Pagliaro. Et le travail prend de nombreuses formes, se réinvente et nous en discutons avec le conseiller d'orientation Mathieu Guénette. Bonjour Mathieu.
Bonjour, comment ça va?
Ça va super bien, et toi?
Ben oui, c'est toujours un plaisir d'être à ton émission.
Oui, ben écoute, ce qui va moins bien, là, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On parlait en premier bloc, là, justement, avec une personne qui a fait beaucoup de travail sur le volet démographique, et ça fait longtemps qu'il prédisait, là, chiffre à l'appui, qu'on se buterait là, à des portes closes de restaurants et de cafés. Et bon, il y en a beaucoup qui ont blâmé la PCU là-dedans, puis on a essayé de démystifier ça avec lui, mais moi, j'ai l'impression que peut-être toute la question des nouveaux métiers qui naissent chez les jeunes aussi.
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'on ne va pas généraliser que tous les jeunes vont adhérer à ce mouvement-là. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance assez importante qui est là. Et moi, je le vois parce que j'aide des jeunes et je me suis même renseigné beaucoup comment ça fonctionnait. Je me suis laissé inspirer. Puis, je trouve ça le fun que j'influence les jeunes, mais les jeunes m'influencent aussi. Mm-hmm. Et j'aide les jeunes, des fois, à voir autrement parce qu'ils ont une très grande peur d'être cloisonnés dans un bureau, faire le 9 à 5. Peut-être qu'ils n'ont pas aimé leurs parents ou bon, ils entendent toutes sortes de choses. Mais pour eux, l'idée d'un employeur unique qui fait des tâches qui risquent d'être répétitives ou ne peuvent pas prendre beaucoup de décisions, ça, c'est vraiment une hantise.
Et donc, on voit, je serais curieuse de voir justement, est-ce que toi, tu as des données là-dessus sur la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a eu, là, parce que moi, comme peut-être toi, je me suis butée à des cafés fermés. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe, là? Ça frappe vraiment de plein fouet.
Ben oui, j'ai voulu me prendre une crème glacée au dépanneur, puis ils m'ont dit, ah, on peut pas, il manque de monde, puis on peut plus. Le comptoir à crème glacée, ça m'a amené à être privé de crème glacée, t'imagines-tu? Donc, mais non, effectivement, puis il y a plusieurs facteurs comme ça qui jouent et je pense que les jeunes, je pense qu'ils sentent qu'ils ont une certaine marge de manœuvre. Hein. Avant de travailler, c'était un privilège. On était donc contents. Moi, j'ai commencé à travailler dans les années 90. Mm-hmm. Et on voit aussi qu'avec, quand on parle des nouveaux métiers, on parle en fait des métiers qui sont beaucoup liés, pas juste aux technologies, genre un programmeur, mais le fait que les technologies existent. On a vu, par exemple, des gens qui étaient des nomades numériques.
Oui.
Donc, des gens qui vont, par exemple, dire, moi, je vais vivre en Thaïlande où le coût de la vie est très, très bas. Mais je vais me partir d'une entreprise de commerce en ligne avec des clients qui sont au Québec ou en France ou peu importe, qui, eux, vont payer des tarifs qui ne correspondent pas au pays où ils se retrouvent. Puis, il y a des villes où il y a des communautés de gens nomades, là, mm-hmm. comme ça. Et ils vont même établir des communautés. Puis, ils apprennent leur travail beaucoup avec questions en ligne. Là. Et là, ils font du marketing, ils mettent en valeur leur truc, ils s'ajustent en fonction du marché. Et c'est fascinant de voir comment il y a des avenues là qui nous permettent d'avoir de l'argent être pris dans un carcan qui ne nous plaît pas, être indépendant, ce mot-là, il parle beaucoup aux jeunes, apprendre en continu, être dans l'aventure tout en étant dans le travail, être en relation avec des gens significatifs, pouvoir mettre son identité à l'avant-plan. Donc mm-hmm. ça, c'est vraiment des choses qui vont faire qui vont réjouir un jeune.
Mais je regarde... Juste dans mon entourage, je mentionnais que ma belle-fille revend des vêtements en ligne qu'elle se procure dans des friperies. Elle leur donne une seconde vie. Elle fait tout ça en ligne de la maison. Mon neveu transige au niveau de la crypto-monnaie. Puis c'est fascinant, là. Ils sont tout jeunes, là. Ils ont moins de 25 ans.
Oui, tout à fait. Puis ils sont déjà capables d'avoir des postures d'experts. Parce que moi, j'entends des clients qui ont 48 ans puis qui se disent, j'ai pas assez d'expérience pour me dire expert. Puis pourtant, ils ont quand même pas mal d'expérience. Puis pendant ce temps-là, t'as le jeune de 22 ans Et ils n'ont pas tort. Parce que les jeunes, ce qu'ils font, c'est que leur stratégie, c'est de nicher. Donc, mm-hmm. au lieu de dire « je suis un expert, mettons, en général, de tout ce qui concerne les finances », ben, je vais être un expert d'un produit très particulier. Et après ça, ben, on peut étendre l'expertise un peu plus, puis de diffuser l'expertise, c'est d'avoir des bons moyens de communication avec YouTube, des podcasts. Donc, l'imaginaire est vraiment au service là, de leur projet. Puis, ils sont toujours en train de s'adapter à ce qui fait de nouveau. Ce qui manque des fois, peut-être, mm-hmm. à des gens un petit peu plus âgés. Moi, j'ai eu l'impression au début d'être un dinosaure et de dire ben, « c'est quoi ça, ces affaires-là? » Puis finalement, je dois t'avouer que je me reconnais dans leur quête et dans leurs valeurs. Je me disais, peut-être que je suis un jeune manqué.
Un jeune manqué.
Parce que vraiment, moi, ça me parle. Puis, il faut savoir, ben, en fait, c'est l'idée des revenus passifs aussi,
oui.
d'automatiser, déléguer. Parce que la personne qui a vraiment mis ça sur la carte, c'est Tim Ferriss. Tu connais Tim Ferriss?
Oui. Ben, mais parle-en à nos auditeurs. Moi, son livre, justement, The 4-Hour Work Week, ça a été vraiment un grand révélateur.
Oui. Ben oui, en français, la semaine de 4 heures. Oui, parce que ce livre-là était la Bible. Et même, j'écoutais des podcasts, justement, avec des jeunes entrepreneurs. Puis, à la fin du podcast, ils disaient, ben, quel est le livre qui a le plus marqué à l'exception de la semaine de 4 heures? Comme quoi... Même de 4 heures, c'est comme évident, là, c'est la Bible. Donc, c'est juste pour dire comment ce livre-là a eu beaucoup d'impact. Les auditeurs qui ont envie de voir un modèle, et il donne des exemples très concrets de comment lui, il fait. Et Tim Ferriss, il explique son cheminement, et c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui déteste l'autorité, qui a perdu tout le temps ses emplois, mm-hmm. et qui finit finalement par faire énormément d'argent en décidant de travailler 4 heures par semaine. Puis il dit qu'en un mois, il faisait le même montant d'argent que ce qu'il faisait avant, en un an, en travaillant comme un fou. Et que les jeunes ne veulent pas juste faire de l'argent. Ils veulent faire de l'argent, mais aussi être libres de leur temps. Parce que tu n'es pas riche quand tu travailles 80 heures par semaine et que tu es stressé, mm-hmm. même si tu gagnes 200 000.
Donc, mais tu sais, je parlais encore de la restauration, mais il y a tout plein de métiers, que ce soit en production aussi, où on est payé à l'heure. Et là, tout ce dont tu me parles, on parle de payer au résultat, on parle de revenus passifs, on est dans un tout autre paradigme. Mais dans le cas, justement, des métiers où on est payé à l'heure, de quelle manière ça va se réinventer tout ça pour pouvoir fournir le même service? Donc, quels métiers vont naître de ces besoins de base-là?
Bien, effectivement, c'est une très bonne question. Je pense qu'il va falloir trouver une manière de rendre attrayant ce travail-là. Et ce qu'une entreprise peut offrir, qu'un commerce en ligne ne peut pas offrir, c'est l'idée d'une équipe, d'une communauté, de sentir qu'il y a des liens, qu'on peut tisser avec les gens, qu'on peut apprendre parce qu'on a une proximité avec son patron. Donc, si on est une entreprise où on paye à l'heure puis qu'on veut des gens engagés et fidèles, il va falloir être en mesure d'être un milieu qui est extrêmement favorable aux échanges, à la proximité, que le patron ben ça soit comme un mentor. Parce que si c'est juste de dire ben tu fais ta job puis on te paye puis voilà, ben à ce moment-là, pourquoi se donner autant de troubles?
Donc, vraiment, un côté communautaire, un côté festif, un côté familial, comme les entreprises ont souvent dit. On est une grande famille, mais parfois, bon, c'est une famille un peu particulière. Et j'ai envie de t'entendre aussi.
L'apprentissage aussi. L'apprentissage,
oui, c'est ça.
L'idée que l'entreprise peut devenir une école, là, on se dit, ben, peut-être que je ne vais pas rester là longtemps, ou peut-être que je vais rester là longtemps, dépendant, mais si ça me permet d'apprendre des choses nouvelles. Puis il y a des choses qu'on peut pas apprendre sur Internet aussi, là. T'sais, le savoir-être, mm-hmm. développer son niveau de conscience, mais c'est quand on côtoie des gens qui ont plus d'expérience et qui prennent le temps de réfléchir avec nous.
Mais je crois aussi que du côté des employeurs, c'est l'idée de poser la question où tu te vois dans 5 ans, ils comprennent de plus en plus qu'il y a des gens qui vont faire de courts séjours chez eux, que ça sera des tremplins, des écoles, et ils doivent aussi se repositionner, ne pas penser que les gens vont être nécessairement là à long terme, mais que le peu de temps qu'ils vont être là, ils vont vouloir donner ce temps-là puis être investis pour le temps qu'ils sont présents.
Oui, puis je disais, même si je ne pense pas rester longtemps chez un employeur, mais que j'ai envie d'apprendre, je vais me donner au maximum, pas pour faire plaisir à l'employeur, mais pour apprendre au maximum, pour avoir les réalisations les plus riches. Je pense que ça va être de démontrer de l'ouverture à déléguer des responsabilités qui vont donner des occasions, à des jeunes travailleurs de se réaliser à travers ça, mais aussi qui vont peut-être faire des erreurs, apprendre leurs erreurs, et qu'on accepte ça pour qu'il y ait un certain niveau d'engagement.
Mm-hmm. Puis ça, on se déplace chez les travailleurs plus âgés. Je regardais, ouais, entre autres, à mon BMR, où la salle de coupe était fermée, et je pensais à plein de voisins que je connais qui sont très habiles dans les travaux manuels, et je me dis, t'sais, pourquoi ils ont comme pas nécessairement envie d'aller faire une journée sur place? Est-ce que c'est pas aussi une solution là, de regarder du côté des...
Oui. Ah, tout à fait. Mais moi, je pense que effectivement, peut-être que ici, ça leur vient pas à l'esprit, mais tu sais, quand tu dis une journée, c'est sûr que si on dit que tu vas travailler 6 jours semaine, puis bon, avec bien de la pression, ils vont dire ben là, j'ai pas besoin de travailler autant, puis j'ai déjà donné. Mais de penser qu'on pourrait travailler 2 avant-midi, ça peut être sympathique, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de changer d'air, là, parce que d'être toujours à la maison, et je pense et de mettre en valeur aussi nos forces, nos qualités. Donc, je pense qu'effectivement, il y aurait moyen d'ouvrir la discussion sur des nouvelles options de travail, là. Puis je pense que de favoriser les échanges intergénérationnels. Moi, malheureusement, quand j'entends les jeunes parler, ben ils parlent entre eux, entre les jeunes. Puis quand on parle avec des gens plus âgés, ils parlent entre eux, comme s'il y avait un fossé. Puis je pense que quand on parle de diversité, on est très, très fort en ce moment pour parler de la diversité homme-femme. Tu fais un commentaire sur les femmes, là, les femmes sont comme ça, tu vas te faire ramasser. Même chose au niveau religion, ethnicité. Mais par rapport aux jeunes, par rapport aux personnes plus âgées, on dirait qu'on s'en permet et on n'a pas cette même, j'allais dire, pudeur d'éviter de ces jugements-là, souvent préjugés, là, de dire « Ah, les jeunes sont tous comme ça » ou « Ah, les gens âgés sont tous comme ça ». Je pense que de voir que moi, par exemple, qui a 48 ans, justement, ben je peux me reconnaître bien plus dans un jeune de 20 ans qui a envie de liberté qu'une personne qui veut simplement de la stabilité 9 à 5. Et on peut s'enrichir comme ça. Et moi, je pense qu'il faudrait trouver des façons de communiquer, de trouver des façons d'échanger et de voir comment tout ça peut être possible.
Donc, peut-être justement d'en venir que si on réinvente les lieux pour en faire des lieux d'apprentissage, des lieux d'échange et qui deviennent aussi des plateaux de travail, il y a peut-être à ce moment-là un attrait pour les emplois vraiment plus sur place. Donc, je comprends qu'on est à l'aube là, d'une grande, grande transformation et peut-être un dernier conseil que tu aurais aux gens là, qui sont à la recherche d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle avenue professionnelle, vers quoi peut-être s'orienter?
C'est sûr qu'il y a des secteurs, on peut commencer à dire, c'est quoi les secteurs qui peuvent être intéressants. Moi, ce que je suggère, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn et je trouve ça extraordinaire de voir comment on peut faire des rencontres. Au début, ce réseau-là était très, très froid. Mm-hmm. On sait, ça avait l'air très machinal, transactionnel. Et aujourd'hui, il y a de la chaleur. Il y a le moyen de rencontrer des gens. Et parce qu'on pourrait appeler du pré-réseautage. Donc, si on a envie de découvrir un nouveau milieu, on a une question à poser, ben on peut publier. Et c'est étonnant comment des gens qu'on connaît pas y arrivent et qui nous font des propositions, puis des cafés virtuels. Je sais pas si tu fais proposer des cafés virtuels. Moi, ça m'arrive assez souvent. Mm-hmm. C'est intéressant. On prend une demi-heure, là. Pas long. Puis on apprend à connaître des gens. Et ça, pour des chercheurs d'emploi, ça vaut de l'or. Parce que avant de choisir un emploi, dire OK, je travaille tout n'importe et fenêtre ou
d'échanger avec quelqu'un qui fait le métier, oui.
Puis rencontrer quelqu'un, tu vas dire, ben moi, je pensais pas aimer les portes et fenêtres, mais c'est tellement sympathique, j'aime tellement tes valeurs que j'ai envie de travailler avec toi, peu importe le produit. Puis là, on choisit des personnes avant de choisir des produits, des services, avant de choisir une entreprise. Parce que c'est avec les personnes qu'on travaille en bout de ligne. Là.
Exactement.
Famille, c'est pas les portes et fenêtres, c'est mon patron, c'est mes collègues. C'est la culture qui est en place.
Hey Mathieu, ce que j'entends, en fait, on va terminer avec ça, mais j'entends que d'un côté, là, il va y avoir des métiers vraiment d'automatisation et de l'autre, des endroits où on va vraiment miser sur l'expérience humaine. Je pense qu'il il va y avoir deux grandes tendances. Là. Trouves-tu que ça fait du sens?
Ça fait énormément de sens. Je trouve que ça conclut tellement bien.
Ben, hein, ça va être notre conclusion, puis on se reparle une prochaine fois, Mathieu.
Ben, merci de l'invitation, puis au plaisir, bon long week-end.
Merci beaucoup. Alors, pour la fête du travail qui sera passée lors de la première diffusion, mais allons-y avec « Travailler, c'est trop dur » de Zachary.
Un classique.
Oui.
Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Prendre là, ça veut dire c'est quelque chose pour pas faire. Chaque jour, comment vivre en demande, comment vivre, dis-moi vivre. Sous l'amour, j'espère vivre. Maman fait la musique, c'est proche tous les soirs. Après traîner tout partout, après chanter dans des whisky bars et des faux. Mais je reste, je crois que c'est juste pour l'amour de chanter. Travailler, c'est trop tard. Voler, c'est pas beau. Mon hélas, j'en disais, c'est quelque chose pour pas faire. Chaque jour, du coup de vie sur l'amour, j'espère de vivre. Travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas beau. Mon délas, ça veut dire ce que ton moment peut pas faire. Chaque jour, j'espère vivre. Assez longtemps, vous revoir encore une fois. Merci beaucoup.
Ah, la beauté des pièces live, hein? Zachary Richard qui a réinventé un petit peu sa pièce musicale. Merci Maurice Bolduc de nous avoir trouvé cette version en spectacle. Donc l'original, vous le savez, ça se terminait « J'espère de vivre vieux ». Et une fois qu'on a vécu une vie bien remplie et que c'est le temps de passer l'arme à gauche, c'est peut-être le temps aussi de se garder éternel par notre contribution à la société. Et là, j'ai envie de vous parler des dons testamentaires, parce que cet été, au moment de la vente de ma maison, j'en ai profité pour refaire mon testament, le remettre à jour, et j'ai découvert le nouveau programme volontédefaire.ca qui nous fait voir à quel point inclure un don testamentaire à un organisme de bienfaisance contribue à réduire les impôts qui sont à payer, en fait, à vos proches à qui vous laissez de l'argent. Donc, ne pas avoir à choisir entre laisser un héritage à nos proches et contribuer à une œuvre sociale. Donc, je vous suggère d'aller faire un tour sur ce site, c'est volontédefaire.ca, et l'initiative est soutenue par plus de 500 organismes de bienfaisance, conseillers financiers et professionnels du don testamentaire à travers le monde, volontédefaire.ca. On s'en va en musique avec Septembre.
Le mois de septembre va commencer. Un peu de spleen, c'est la fin de l'été. Mais pourquoi mon ventre se serre à la rentrée? Dans mes yeux me poussent des argelets. Comme chaque année, je sens le stress qui me prend et qui m'empêche.
C'était la pièce musicale « Septembre » chantée par une chanteuse qui s'appelle un groupe qui s'appelle La Femme. Donc, L majuscule, F majuscule. Et dans cette pièce, on parle, entre autres, du spleen de la fin d'été. Et nous allons explorer la semaine prochaine tout le secteur, toute la nostalgie, le phénomène de la nostalgie avec Denis Bachand, auteur du livre « Voyage en nostalgie ». Nous recevrons également Winston McQuaid de retour à l'antenne. Un grand merci à nos collaborateurs Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche et Louis Garon, chef d'antenne. On se retrouve la semaine prochaine et profitez bien de cette toute belle fin d'été qui s'annonce à nous. À très bientôt!